Donc j'ai pu faire quelques épisodes avec des experts de l'énergie, que ce soit Damien Salel sur le photovoltaïque, Maxence Cordier sur le nucléaire, Karim Megarbi sur l'éolien et Benjamin Bouchou sur l'hydroélectricité. L'objectif, c'était de comprendre un peu les tenants et les aboutissants de ces différentes sources. Mais on a peu parlé de l'impact sur la biodiversité, même si on l'abordait progressivement au sein de chaque épisode. L'objectif, c'était plus de pouvoir comprendre ces types d'énergie, les tenants et les aboutissants. Sur la biodiversité, j'imagine que certains ont plus d'impact que d'autres. Je ne vais pas te demander tout de résumé, parce que ça ferait aussi office d'un autre épisode, etc. Mais juste globalement, sur cette thématique-là de l'énergie, de la biodiversité, est-ce que tu as des sujets à nous partager sur certains, peut-être qui sont plus... à observer plus que d'autres ou à challenger plus que d'autres sur certains sujets.
Alors, il y a effectivement, le tropisme climat est dangereux, parce que quand tu envisages les trucs que d'un point de vue climat, et c'est de moins en moins le cas, tu fais pas gaffe aux externalités négatives et aux impacts sur la biodiversité. Donc par exemple, si tu faisais à l'aveugle du déploiement de photovoltaïque, éolien, etc., sans regarder, évidemment, bah oui, ça a des impacts sur la biodiversité, parce que tu mets des choses à des endroits, si tu mets des choses à des endroits en tout cas, qui sont des écosystèmes naturels, tu vas fragmenter ou impacter leur territoire, tu vas parfois impacter des espèces en particulier avec certains types de pollution, certains types de dérangements, etc. Donc oui, ça a un impact. Mais ça va toujours être un peu des trade-offs de « Ok, bon, mais il faut quand même sortir des énergies fossiles, donc il faut quand même aller vers des énergies décarbonées, et t'as pas mal de choses à prendre en compte. » Les choses qu'il faut regarder, c'est les mettre aux bons endroits. On n'a pas le luxe de décider de mettre des énergies renouvelables à tort et à travers, mais de toute manière, c'est quand même bien regarder et bien ficeler ces projets-là, et il faut qu'ils justifient, notamment en particulier en Europe, de comment est-ce qu'ils gèrent l'impact environnemental. Donc, évidemment, il faut regarder où tu les mets. Évidemment, il faut faire attention que tu ne sois pas un vecteur de pression direct sur l'occupation des sols ou sur la perturbation des êtres vivants. Mais oui, il y a toujours... tu mets un barrage, tu perturbes complètement ton environnement local. Tu mets des éoliennes, là où elles sont implantées, ça va perturber. Après, moi... faut pas confondre les sujets pour moi. Ça me fait très peur quand on parle que de transition énergétique, en fait. Si c'est Jean Covici l'explique très bien depuis des années, et plein d'autres, mais on est une grande machine, notre économie est une grande machine qui utilise beaucoup d'énergie, qui était avant abondante, et qui est principalement fossile à 80% et qui émet des gaz à effet de serre. Si on borne le sujet de la transition environnementale à... En fait, il faut juste faire une transition énergétique et se substituer d'énergie... effectivement, là, la biodiversité, ça va être la catastrophe. Parce que tu vas tomber sur des énergies qui sont moins denses, qui vont avoir besoin de beaucoup plus de surface, qu'on va implanter partout. Et donc, oui, évidemment, c'est la catastrophe. Donc, on n'est pas sur un simple problème de transition énergétique et substitution d'énergie. Il y a une énergie, moi, qui m'inquiète en particulier, c'est la biomasse. On entend beaucoup parler, le but étant de se dire, quand j'arrive pas à électrifier ou il n'y aura pas d'électricité pour tout le monde, j'imitais les carburants qui sont aujourd'hui d'origine fossile, donc avec les hydrocarbures fossiles, encore une fois, il faut évidemment sortir des énergies fossiles, sinon on ne résout pas notre problème de ne pas aller à plus 1,5 ou plus de degrés à 2100. Mes carburants, c'est simple, j'ai juste à remplacer mes atomes de carbone et mes atomes d'hydrogène qui font mes hydrocarbures fossiles à partir de trucs verts qui viennent de la biomasse. Non, si on réfléchit comme ça et si on est encore une fois sur des sujets de substitution énergétique, sans re-questionner les volumes, le fonctionnement et pourquoi on fait tout ça, en fait, faut qu'on change complètement de notre grosse machine là, faut qu'on en change complètement. On peut pas juste l'adapter et la transitionner linéairement. Parce que ça va pas marcher. Il n'y a pas assez de biomasse pour faire fonctionner. Et à quel moment c'est désirable de faire des champs faire des champs pour des carburants alors qu'on a déjà il y a 1 milliard de personnes qui ont des problèmes d'alimentation et qui souffrent de la faim. À quel moment c'est désirable de couper, détruire des écosystèmes naturels pour après en faire du carburant et les mettre dans certains systèmes de transport pour acheminer soit des biens, soit des personnes. Voilà. Donc, pour moi, il y a un vrai problème si, quand la transition, enfin les efforts climatiques, et parfois c'est un peu ce qu'on voit sur certaines politiques sectorielles, se résument à une transition énergétique avec bah, je change, je touche pas à ma masse de carburant, je touche pas à mon besoin énergétique, je substitue. Et je me dis que c'est un problème de... Bah, je change un atome de carbone fossile en atome de carbone naturel. Oui, là, ça va être la cata. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est si tu regardes sur la biomasse les différents rapports, que ce soit à l'échelle mondiale, ou que ce soit même sur, aux instances, les instances françaises ou européennes, personne n'est d'accord sur la prévision de la biomasse qui sera accessible et la taille, enfin, tu vois, la taille qu'elle fait. Parce qu'il faut se projeter. Si on décide de faire des biocarburants en masse, encore une fois, ça peut être des solutions locales sur certains cas d'usage, quand c'est bien pensé, fait à partir de déchets, de la valorisation de déchets, ça peut être une bonne idée. Mais c'est toujours la même chose, en fait. Il n'y a pas de réponse simple. C'est à chaque fois, faut revenir au cas d'usage. Mais si c'est faire des biocarburants, enfin, raconter qu'on va réussir à faire une transition avec des biocarburants en très très grand volume, il faut se représenter ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, dans la forêt, enfin, ou dans les forêts, dans les écosystèmes naturels, ou en permanence, tu auras plein de petites usines, plein de petites usines, unités de fabrication de carburant partout, pour faire ces biocarburants, et qui après seront acheminés partout. Enfin, tu vois, faut représenter à l'échelle, en fait, ce que ça veut dire de parier sur quelque chose comme ça. Il faut toujours différencier les solutions de transition énergétique locales et celles qui sont souhaitables à l'échelle. Et enfin, je pense que ce qui serait beaucoup plus désirable de faire, c'est, là on hérite d'une économie et de plein d'objets qui ont été construits autour des fossiles, juste les électrifier ou juste en faire une transition, enfin substituer avec des carburants, des biocarburants, des e-carburants, qui e-carburants c'est pas magique non plus, hein, faut aller chercher quelque part les atomes de H et de C, donc il va falloir sacrément l'électricité décarbonée pour le faire. Il faut se poser la question de si on avait dû faire une société qui était nativement électrique, tu vois, ou nativement qui prenait en compte, qui s'appuyait sur des ressources naturelles, ça serait sûrement pas du tout les mêmes objets qu'on aurait, les mêmes façons de consommer, les mêmes produits qu'on aurait dans les mains. Et c'est en fait ces questions-là qui sont hyper intéressantes d'ouvrir.